Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans Accent, très loin de son image touristique. Chypre peut aussi offrir un visage peu reluisant. À la frontière orientale de l'Europe, à une centaine de kilomètres seulement des côtes syriennes, l'île est devenue une véritable impasse pour les migrants. Et pour le comprendre, Michel Picard a visité le centre de rétention de Menoia, une véritable prison.
À une demi-heure de Nicosie, au centre du pays, au milieu de nulle part, loin de toute habitation, le seul centre de rétention de Chypre, Menoia. C'est là, dans des constructions récentes, que transitent tous ceux que la République s'apprête à expulser. Pour y entrer, fouilles minutieuses, passage de portiques, confiscation de portables et de tout objet métallique. Le centre, qui diffère peu d'une prison, est dirigé par Konstantinos, qui relativise.
Si vous décrivez ce centre comme une prison, ce n'est pas vraiment ça. Peut-être en apparence. Il y a des clôtures, on ne peut pas les laisser partir. Mais nous n'avons pas beaucoup de restrictions. Comme il y a beaucoup de monde, ils ont des règles à respecter. Si on les laisse faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ça va créer des tensions.
Pourtant, les plaintes sont nombreuses. Violations du droit international, traitements dégradants, zèle des surveillants, toutes sont relayées par des ONG. 120 personnes pour 250 places disponibles. Une centaine d'hommes pour 20 femmes vivent là. Depuis l'ouverture du centre en février 2013, la durée moyenne de séjour est de 5 mois. Ismaël, carrure impressionnante, vient du Sierra Leone. À Chypre depuis plus de 10 ans, il est enfermé parce que son club de deuxième division locale de football n'a pas fait le nécessaire pour ses papiers. Comme à chaque entretien avec un migrant, les policiers sont présents pour surveiller ce qui se dit et on l'entend.
Être en prison sans avoir commis de crime, c'est très douloureux. J'ai besoin que de ma liberté, c'est difficile pour moi ici. Les policiers sont gentils avec moi, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. S'ils me libèrent, il faut qu'ils me donnent au moins un visa, que je puisse sortir, trouver une équipe et recommencer à jouer. Ça fait 15 mois que je suis en prison, vous imaginez? Pour un joueur de foot professionnel, et j'ai encore 3 mois à faire.
En théorie, les migrants ne peuvent en effet pas rester plus de 18 mois en rétention. Ils doivent ensuite être libérés ou jugés. Levé à 7h30, douche, petit déjeuner, sortie dans la cour, télé, le programme est affiché dans les coursives, près d'une boîte de réclamation. Le centre a fait la une des médias parce qu'il enferme des Syriens qu'aucune loi ne peut rendre expulsables aujourd'hui. Et le directeur le reconnaît, cela ne lui facilite pas la vie.
On ne les expulse pas. Certains obtiennent un droit de séjour de 6 mois et ils doivent trouver un travail. D'autres peuvent rester jusqu'à ce que la situation s'améliore en Syrie. En général, les troubles commencent quand il y a beaucoup de Syriens ici. Ils refusent de présenter leur passeport et tiennent pour acquis qu'ils vont être libérés. Ils demandent que cette libération soit immédiate. Du coup, ils s'agitent ou font des grèves de la faim. Mais maintenant, si j'ai bien compris, la politique du gouvernement, c'est de ne plus les amener ici.
L'an dernier, un seul Syrien a obtenu le statut de réfugié. En fait, ils sont aujourd'hui peu nombreux à réclamer ce statut, tant Chypre constitue une impasse pour les migrants. Parmi la quinzaine de Syriens détenus, Samir vient d'Alep. Il entame son 6e mois dans le centre.
Mettre en prison les Syriens, ce n'est pas bien. J'ai donné mon passeport à l'immigration en disant que j'étais Syrien. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire, mais croyez-moi, je ne sais pas. Si je ne peux pas travailler, si je ne peux rien faire, j'irai en Europe. Mon frère habite en Allemagne. En seulement 2 mois, il a obtenu une carte verte de 5 ans, qui couvre également tous les frais. Mais ça n'existe pas à Chypre. Maintenant, les Syriens ne viennent plus ici, car on ne peut pas devenir réfugié à Chypre.
Au centre de Menoia, 50% des illégaux sont d'origine asiatique, pour l'essentiel des travailleurs domestiques en fin de droit qui tentaient de prolonger leur séjour, comme ces femmes qui nous montrent leur chambre de 17 mètres carrés où s'entassent 8 lits. Les autres sont Syriens, Iraniens, Africains, et puis il y a une dizaine d'Européens, Sylvia et Roumaine, une première pour cette quadragénaire installée depuis 7 ans à Chypre. Accusée de mariage blanc, les autorités veulent la renvoyer à Bucarest, ce qui la met en colère.
Je suis ici parce que j'aime un homme. Je suis européenne. J'ai un visa, un passeport, une carte d'identité. Tous mes papiers sont en règle. Le problème, c'est que j'aime un Syrien. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans. J'ai envoyé tous les documents dans mon pays. Dans mon pays, je suis mariée. Ceux qui veulent vérifier peuvent le faire. Qui peut prétendre que ce mariage est faux? Qui? Si j'avais tué quelqu'un ou fait du mal, je comprendrais pourquoi je fais de la prison.
Comme Sylvia, les citoyens européens détenus dans les centres de rétention ne sont pas appelés des illégaux, mais des indésirables. Chypre n'appartenant pas à l'espace Schengen, ils sont expulsables, mais ils peuvent aussi revenir à tout moment.
Si la crise affecte une Angleterre que l'on voit comme le sanctuaire d'une finance folle, si des oligarques russes semblent prendre possession des bijoux de la couronne, qu'importe, la noblesse du Royaume-Uni, elle prospère et son univers continue de fasciner même au XXIe siècle. Pour preuve, le succès de la série Downton Abbey, vous venez d'entendre le générique, le très beau générique, un univers qui est entré de plein pied dans les années 2000, sauf en ce qui concerne la parité des sexes. La règle de la primogéniture mâle est toujours en vigueur. Quand un comte ou un baron décède, sa fille ne peut jamais hériter. Mais certaines ladies se battent contre ce système archaïque. Marie Billon est allée les rencontrer.
Elles sont deux ladies à se battre pour le droit des femmes, Lady Liza Campbell et Lady Clancarty. La première a le droit d'utiliser son nom de baptême après son titre parce qu'elle est issue d'une famille noble. La seconde doit utiliser le titre de son mari sans y associer son vrai nom parce que c'est une roturière qui a épousé un comte. Les règles sont compliquées dans la noblesse anglaise, pourtant toutes deux résument leur situation en une phrase.
I'm a aristocratic cul-de-sac.
Je suis un cul-de-sac aristocratique.
Elles ont ri, mais en même temps, elles sont en lutte contre cette tradition misogyne qui ne permet toujours pas aux femmes d'hériter des titres de noblesse, qu'ils soient purement honorifiques ou qu'ils soient synonymes de terre et de fortune. Liza n'a que le titre de Lady, c'est son petit frère qui est baron de Cawdor et maître en son château en Écosse. Elle, elle vit dans une maison du nord de Londres et en y rentrant, impossible de deviner qu'une Lady habite les lieux. L'intérieur est cossu, mais pas de tableau d'ancêtres en perruque ni de vase en cristal. Pour Victoria Lambert, Lady Clancarty, donc, le problème est différent.
Notre fille unique ne peut pas hériter du titre de son père. Quand il mourra, le titre mourra avec lui. La tradition préfère voir un titre disparaître plutôt que de le donner à une fille. Sur le principe, je trouve ça horrible que ma fille n'ait pas le droit d'hériter de quelque chose qui appartient à notre famille. Alors que si elle était un garçon, il n'y aurait aucun problème.
Si la famille de Victoria avait un cousin mâle encore vivant, même issu d'une ligne très éloignée, c'est lui qui hériterait. Un scénario très fréquent que dénonce Liza.
Très récemment, il y a eu un exemple avec la succession du comte de North Esk. Il avait 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Mais le fils s'est suicidé. Quand le comte est mort, sa fille aînée a voulu hériter du titre de son père, mais elle l'a perdu. Il a été décidé que le titre irait à un cousin tellement éloigné qu'il n'écrivait plus son nom de famille de la même manière. Leur dernier lien de parenté direct datait du XVIIe siècle.
Mais qui a pris cette décision et contre qui la fille du comte de North Esk a dû se battre?
La décision vient d'un petit bureau rempli d'hommes recouverts de toiles d'araignée qui s'accrochent au passé.
Il s'agit du Crown Office, le bureau de la couronne. Mais le fait est qu'aucun texte, aucune loi n'interdit à une fille d'hériter, explique Victoria.
Non, ce n'est inscrit nulle part. Ce sont les us et coutumes. La tradition est un élément tellement important dans notre système que c'est toujours valable. La tradition dit qu'un garçon doit hériter et les gens sont d'accord. Il faut casser ces usages.
C'est bien ce que les deux ladies tentent de faire dans leur collectif The Heirs. C'est maintenant à l'époux de Victoria, membre de la Chambre des Lords par héritage, de présenter le texte.
On veut une loi qui dise très simplement, à partir d'aujourd'hui, les titres doivent revenir à l'aîné de la famille. Le processus parlementaire est compliqué, mais on ne voit pas comment ça ne pourrait pas passer puisque c'est une question d'égalité.
C'est une égalité.
Le texte de loi ne sera pas rétroactif. Les grandes sœurs ne pourront pas reprendre leur titre à leurs petits frères. Lisa et Victoria sont très confiantes, surtout que leur texte n'est pas le seul qui va être discuté au Parlement ces prochains mois. La baronne Ditch, membre de la Chambre des Lords, va, elle, tenter de réparer une injustice qui semble faite aux hommes cette fois.
Quand un homme est fait chevalier et qu'il prend le titre de sœur, son épouse, ses ex-épouses, s'il divorce, sa veuve, elles obtiennent automatiquement le titre de lady. Mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Si une femme est faite dame, l'équivalent féminin de chevalier, son mari n'a droit à rien. Et si une femme est créée membre à vie de la Chambre des Lords, comme moi, son époux n'a droit à rien.
Si ce sont les hommes qui sont volés d'un titre, selon la baronne, ce n'est pourtant pas le signe rare d'une discrimination contre les hommes. C'est en fait, encore une fois, de la misogynie bien classique.
C'est de la discrimination. L'épouse a le droit d'utiliser le titre de son mari parce qu'elle n'est perçue que comme le prolongement de son époux. Donc, soit nous sommes des partenaires et nous partageons tous les titres, soit c'est outrageusement discriminant, car la femme est vue comme un parasite.
Le combat de Victoria et Lisa et celui de la baronne Ditch n'ont rien à voir, même si toutes trois essaient de moderniser l'aristocratie anglaise. Mais ce n'est pourtant pas une coïncidence si les deux problèmes sont soulevés en ce moment, selon Lisa.
Mon cousin Germain et son fils sont très certainement morts.
Comment ?
Monsieur Crowley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte.
Je croyais que c'était Lady Mary l'héritier.
Je suis pas idiote, c'est une fille, les filles ne peuvent pas hériter.
La popularité de Downton Abbey a beaucoup aidé, parce que le problème, c'est que Lord Grantham n'a que des filles et ne sait pas à qui léguer son titre et sa fortune. Les gens n'en reviennent pas quand ils apprennent que ce système est toujours en vigueur. Et maintenant que la famille royale a ôté tout sexisme de ses lois de succession, l'injustice est encore plus criante. Si Kate avait eu une fille, ce serait notre future reine.
L'exemple posé par la famille royale, qui a mis fin à la règle de primogéniture mâle en 2013, est l'argument le plus fort entre les mains de Lisa et Victoria. Et les deux ladies comptent bien faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme si, d'ici quelques mois, Westminster refuse de mettre fin à cette discrimination ancestrale.
La noblesse suédoise, si longtemps exemplaire, bien aimée de ses sujets, elle ne fait plus rêver. La faute au dernier scandale qui émaille ces dernières années, le règne de Charles Gustave, les Suédois verraient bien sa fille même héritée du titre, Benoît Derrier à Stockholm.
La famille Bernadotte siège sur le trône de Suède depuis 200 ans, depuis que Jean-Baptiste Bernadotte, maréchal français de Napoléon, a été parachuté roi de Suède en 1811. Aujourd'hui, son descendant Charles XVI Gustave de Suède règne depuis 40 ans. Et on ne peut pas dire que l'actuel roi soit très populaire. En cause, les récents scandales qui ont émaillé sa réputation. Un livre paru en 2010 relatait notamment ses visites nocturnes dans des clubs de striptease et comment l'un de ses amis aurait tenté de soudoyer le propriétaire du club qui prétendait être en possession de photos du monarque en charmante compagnie. Ce dernier, Mille Markowitz, a d'ailleurs été abattu à Stockholm au mois de janvier dernier de plusieurs balles dans la tête. C'est peut-être cette sombre affaire qui est la cause du désamour croissant des Suédois pour leur actuel monarque. Un récent sondage révélait que seulement 39% des Suédois souhaitaient que le roi conserve son trône, tandis que 48% se prononçaient pour une abdication en faveur de sa fille, la très populaire princesse Victoria. Depuis 1980, c'est en effet le premier enfant qui est automatiquement héritier, quel que soit son sexe. Victoria étant l'aînée d'une fratrie de trois, c'est elle qui deviendrait reine de Suède si son père venait à abdiquer ou à décéder. Plus généralement, l'amour des Suédois pour leur monarchie décline doucement et régulièrement. Si en 2005, 4 Suédois sur 5 étaient attachés à la monarchie, ils ne sont plus aujourd'hui que 2 sur 3.
Et aujourd'hui, cela se passe à Athènes, notre sortir, un théâtre un peu spécial qui organise des spectacles en semaine ou le week-end. Un peu spécial car officiellement ce théâtre est fermé. Un collectif d'artistes l'occupe et le fait revivre. Il joue même au chat et à la souris avec la police qui de temps en temps vient remettre un cadenas sur la porte et chasser les rêveurs. Entre ces murs noirs et décrépits, les vieux comme les jeunes viennent profiter de cette culture gratuite faite par des artistes sans le sou pour des spectateurs sans le sou. Charlotte Stiennard.
Sur scène, deux filles dansent couteau et saladier à la main. Ce soir, c'est un hymne à la pomme de terre, mais ça pourrait aussi bien être un concert de harpe avec des percussions africaines ou encore une exposition inspirée de la vie de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine. Bienvenue au théâtre Ebros, où la liberté est totale. Ebros, ça veut dire « en avant », comme le nom du journal qui avait son imprimerie dans ce bâtiment Bauhaus des années 30, avant qu'un premier théâtre ne s'y installe. Aujourd'hui, il y a plusieurs salles d'exposition et un bar qui ne vend rien, mais distribue du vin et de la bière. L'entrée, elle est aussi gratuite, même si une tirelire rappelle qu'un don est toujours le bienvenu. Car l'endroit fonctionne entièrement sur le bénévolat, avec une assemblée ouverte à tous qui se réunit chaque semaine. Il n'y a pas de direction artistique, tout le monde peut décider de se produire tant qu'il y a de la place dans le calendrier et ça donne beaucoup d'expérimentation. Il y a 3 ans, des artistes, comédiens, architectes ou encore riverains ont décidé d'occuper les lieux pour créer un endroit ouvert dans la ville, disent-ils, mais la police les chasse régulièrement. 2 bénévoles sont en procès pour occupation illégale. Aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est surtout une possible vente du bâtiment car il fait partie du portefeuille de la Taïped. C'est l'organisme qui cède les biens de l'État pour rembourser la dette.
Charlotte Stevenard, donc, qui a été convaincue par le spectacle. Music. Des notes dans les oreilles pour terminer l'émission avec le choix pop de Vincent Théval.
Voilà un groupe dont l'une des nombreuses qualités est de pouvoir vous tirer d'affaire au Scrabble. Cac Madafaka, ça fait beaucoup de K, de D et de F, mais surtout beaucoup de bonne humeur et de mélodie sur ce 3e album du collectif norvégien fondé en 2007 à Bergen. Une paire de frères y côtoient des amis d'école, tous ont étudié la musique et jouent une pop bubblegum qui doit beaucoup à Paul McCartney. Guitare, piano et rythmique rebondis mettent en joie tout au long de Six Months is a Long Time, le 3e album de Cac Madafaka dont on écoute un extrait, Young. Walk in the mountains, drink in a bar. Walk in the mountains, drink in a bar. Stepping back into my town, drop my bags and I look around. Places seem the same as the memories that we made. I've been away for 6 months, 6 months is a long time.
Can have a drink in a bar as long as we're together.
C'est la fin d'Accent d'Europe, à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes, les infos. We can walk in the mountains, we can...